L'Église catholique commence la messe. Alors, il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ensuite, il dit, le Seigneur est avec vous, et les fidèles répondent, et avec votre esprit. Un prêtre, un jour, alors qu'il s'apprêtait à commencer la messe, tapota le micro, comme à chaque fois, pour s'assurer qu'il fonctionnait bien, et se rendit compte qu'il y avait un problème. Il dit alors, il y a quelque chose qui ne va pas avec le micro. Et les fidèles répondirent, et avec votre esprit. Alors il me semble que ça fonctionne bien. Et j'espère que mon esprit aussi. Ce matin, calendrier aidant, j'aimerais vous inviter à réfléchir autour de ce qui s'est passé il y a environ 2000 ans, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem. Et je vous invite à lire avec moi quelques versets dans le livre des Actes. Nous commençons la lecture au début du chapitre 2. Je lis les versets 1 à 13 et puis ensuite les versets 37 à 41. Acte 2, versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis encore les versets 37 à 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Pour aborder ce récit des événements qui se sont produits lors de ce jour de la Pentecôte à Jérusalem, je vous propose de progresser de la façon suivante. Tout d'abord, quelques généralités sur cette fête de la Pentecôte. Ensuite, quelques mots sur ce qui s'est passé, sur les faits. Et puis, quelques remarques ensuite pour donner du sens à ce texte. La fête de la Pentecôte est en réalité une des trois grandes fêtes juives, avec la fête des tabernacles, la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. Elle trouve son origine dans l'Ancien Testament. Mais je vois que certains ont froncé les sourcils parce qu'effectivement, elle ne s'appelle pas comme ça dans l'Ancien Testament. Nous la trouvons essentiellement sous le nom de fête des semaines. Parfois, elle est aussi appelée fête de la moisson et parfois encore jour des prémices. La fête des semaines, donc, était une fête de joie, une fête de reconnaissance pour la moisson, une fête des récoltes, en somme. Et en réalité, Israël possédait deux fêtes des récoltes. La première était la fête des semaines, celle dont nous parlons, et la deuxième était la fête des tabernacles. Vous le savez, la fête des tabernacles célébrait la sortie de l'Égypte, l'exode de l'Égypte, mais célébrait aussi la fin du cycle agricole annuel. Pentecôte, fête des semaines, fête de la moisson, fête de la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, fête où l'on apportait à Dieu, en plus des sacrifices, les prémices de la récolte sous la forme de deux pains faits avec la farine nouvelle. À Dieu l'honneur d'être servi en premier. La fête des semaines était appelée ainsi parce que sa date était fixée précisément 7 semaines après l'offrande de la gerbe. C'est beaucoup de détails que vous n'avez pas forcément besoin de retenir, mais après l'offrande de la gerbe, des prémices de l'orge qui terminait la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain terminait elle-même les célébrations de la Pâque. 7 jours, c'est-à-dire 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours, et donc une fête qui avait lieu le 50e jour. Et c'est pour cela que bien plus tard va apparaître ce mot Pentecôte, qui en grec signifie littéralement le 50e. Le 50e jour. Et c'est comme ça que la fête des semaines devient la fête de la Pentecôte. Mais c'est en réalité la même chose. Fête des semaines, fête de la Pentecôte, fête de réjouissance, fête populaire. Et à l'époque de notre récit, des juifs pieux de toute la diaspora étaient venus à Jérusalem en pèlerinage du monde entier de l'époque pour apporter les prémices des récoltes en ce jour de la Pentecôte. Et notre texte le souligne, nous l'avons lu. Je remets simplement ces versets où il est question de toutes ces nations qui habitaient à Jérusalem, et puis nous avons ensuite l'énumération de tous ces peuples qui étaient alors présents. Il y avait donc en ce jour de Pentecôte, en ce jour de fête, une grande effervescence à Jérusalem. On était venu des 4 coins de l'horizon pour adorer Dieu, pour se réjouir de ses bontés. Voilà pour les généralités sur la fête de la Pentecôte. Je vous propose maintenant de passer en revue les événements, les faits qui se sont produits. Que s'est-il passé ce jour-là à Jérusalem ? Un mot premièrement sur les disciples. Nous lisons au verset 1 qu'ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Sans doute s'agit-il ici des 120 tels qu'ils sont précisés dans le chapitre 1 et non pas seulement des 12 disciples. Il est fort probable qu'il s'agit ici des 120. Alors que faisaient-ils ensemble ? Le texte ne le précise pas, mais sans doute étaient-ils en prière, comme c'est le cas au chapitre 1er, où nous lisons, verset 14, « Tous d'un commun accord étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. » Ils priaient sans doute, et puis ils attendaient ensemble l'accomplissement de la promesse faite par Jésus avant de les quitter. Cette promesse, Sigère y a déjà fait allusion. Jésus, au chapitre 1 du livre des Actes, dit ceci: « Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint, que vous recevrez d'ici peu de jours. » Puis au verset 8, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples sont donc réunis, certainement en prière et dans l'attente de la réalisation de cette promesse de Jésus. Ils sont là quand, tout à coup, dit le texte, au verset 2, se produisent des choses extraordinaires. Avant de dire un mot sur ce qui arrive d'extraordinaire, je m'arrête quelques instants sur cette expression « tout à coup ». Cette expression anodine est en réalité très importante. Elle est très importante parce qu'elle nous dit quelque chose d'important sur le Saint-Esprit. Elle souligne sa souveraineté. Tout à coup, nous dit et nous rappelle que le Saint-Esprit est libre d'agir comme bon lui semble, quand bon lui semble et où bon lui semble. Il se manifeste comme il veut, où il veut, quand il veut. Tout à coup, nous dit le texte. Le XXe siècle a certainement été le siècle dans la chrétienté où l'on a le plus parlé du Saint-Esprit dans l'Église. Je pense qu'en un siècle, on en a parlé au moins autant que dans les 19 qui ont précédé. Mais il est important que nous parlions du Saint-Esprit. Il est important que nous parlions du Saint-Esprit parce qu'il est la troisième personne de la Trinité, parce qu'il est Dieu donc, et parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Il est donc essentiel que nous parlions du Saint-Esprit. Malheureusement, je pense que beaucoup sont tombés dans l'erreur de croire pouvoir d'une certaine manière contrôler le Saint-Esprit. Le canaliser, susciter son action, la stimuler même, et d'une certaine manière, contraindre le Saint-Esprit à agir. Cependant, le Saint-Esprit n'est pas une force que l'on branche ou que l'on débranche au gré de nos rencontres, au gré de nos désirs. Comme le vent souffle où il veut, dira Jésus à Nicodème, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu, qui agit souverainement, souverainement, pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de méthode, pas de recette ou de prière qui peut forcer la main au Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous constatons dans l'Écriture que l'action du Saint-Esprit est très diverse et elle ne peut pas être réduite à un type de manifestation. Pour Jésus, par exemple, l'Esprit Saint s'est manifesté sous la forme d'une colombe. J'aurais envie de dire sous la forme improbable d'une colombe. Pour les disciples à la Pentecôte, il s'est manifesté par du bruit, par des langues de feu, par des personnes qui parlaient dans d'autres langues et par beaucoup, beaucoup de conversions. Et puis rapidement après la Pentecôte, les disciples seront à nouveau réunis et ils seront à nouveau remplis de l'Esprit Saint qui se manifestera cette fois-ci par le tremblement du lieu où les disciples sont réunis. Comme le vent souffle où il veut, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu qui agit souverainement pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est essentiel que nous le comprenions. Il est essentiel pour nous de nous souvenir que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est souverain. Et c'est la raison pour laquelle aucune église ni personne sur cette terre ne peut prétendre avoir le monopole de l'Esprit, le monopole des dons de l'Esprit, des dons de l'Esprit que Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, c'est à qui il veut. Tout à coup donc, le Saint-Esprit se manifeste de manière extraordinaire. Comment ? Par un signe audible, un bruit comme celui d'un violent coup de vent, dit le texte, et puis par un signe visible, des langues qui semblaient de feu posées sur chacun des disciples. Tout d'abord, le bruit comme celui d'un vent impétueux, d'un violent coup de vent. Notons bien qu'il ne s'agit pas d'un vent, mais d'un bruit, comme celui d'un vent violent. Si nous regardons attentivement le texte, nous comprenons rapidement que le but de cette manifestation audible, que le but de cette manifestation de l'Esprit, était à l'évidence d'attirer l'attention de ceux qui étaient là. En effet, nous lisons au verset 6, « Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Au bruit qui se produisit, la multitude accourut. À l'évidence, Dieu s'est servi de ce bruit venant du ciel, de ce bruit surnaturel pour attirer l'attention de la foule. Après le signe audible, le signe visible, c'est-à-dire les langues qui semblaient de feu, précise le texte. Nous notons que dans l'Écriture, le feu, quand il est associé à Dieu, parle de sainteté, parle de purification et parle parfois de jugement. Peut-être avons-nous ici simplement, dans cette manifestation visible de l'Esprit-Saint, l'accomplissement d'une des paroles de Jean-Baptiste dans les évangiles. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu. » Après les manifestations extérieures, viennent les réalités intérieures. Alors que l'Esprit se manifeste audiblement et visiblement, les disciples, dit le texte, sont tous remplis d'Esprit Saint. Ils sont tous remplis d'Esprit Saint et ils se mettent à parler en d'autres langues. Verset 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Cependant, ces langues, à l'inverse des langues dont Paul va parler aux Corinthiens, ne nécessitent pas d'interprétation, parce que ce sont les langues de tous ceux qui ont accouru quand ils ont entendu le grand bruit. Ce sont les langues de tous ces Juifs de la diaspora réunis à Jérusalem pour la Pentecôte et qui sont ainsi capables d'entendre chacun dans sa propre langue, précise le texte, parler des merveilles de Dieu. Je relis juste ce premier verset, enfin le verset où après l'énumération de tous les peuples, nous lisons, nous les entendons au verset 11, dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Notons pour terminer avec les faits que si certains de ceux qui entendent et voient ces choses se moquent, il en est question au verset 13, se moquent en disant ils sont pleins de vin doux. On va le dire de manière un peu légère, hein, ils sont bourrés, hein, comme ça on comprend bien de quoi il s'agit. Hein, il se passe des trucs bizarres, ils ont dû commencer très tôt à consommer de l'alcool. Ça, c'est ce que certains disent. Mais d'autres, précise le texte, environ 3000 vont se convertir ce jour-là suite à la prédication de l'apôtre Pierre que je n'ai pas lue, mais nous avons lu au verset 41, où il est fait mention de ces 3000 conversions. Et c'est certainement là, avec la venue du Saint-Esprit, avec le don de l'Esprit, c'est certainement là le fait le plus important dans tout ce récit. Je parle des 3000 conversions. Voilà pour les faits. Venons-en maintenant à la signification de tout ceci, en tout cas celle que je vous propose. Que faut-il comprendre de tout ceci ? J'aimerais tout d'abord souligner que la Pentecôte, ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte, est l'accomplissement essentiellement de deux choses. C'est premièrement l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. La fameuse prophétie où le prophète Joël annonce la venue de l'Esprit-Saint. Et dans le discours de Pierre que nous n'avons pas lu, l'apôtre Pierre va le souligner. Je lis au verset 14. « Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-le. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Pentecôte, c'est premièrement l'accomplissement de cette parole du prophète Joël annonçant la venue de l'Esprit-Saint, l'effusion du Saint-Esprit. Et puis c'est aussi l'accomplissement d'une autre parole, d'une autre promesse faite par Jésus lui-même. Nous en avons déjà parlé. Celle d'envoyer l'Esprit-Saint, celle d'envoyer le Consolateur une fois qu'il serait parti, celle de ne pas laisser ses disciples orphelins, celle de donner l'Esprit de Dieu à ses disciples, ce qui fera d'eux des témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Pentecôte est donc l'accomplissement de ces deux paroles, qui toutes les deux annoncent la venue du Saint-Esprit, cette parole de Joël dans l'Ancien Testament et cette parole, ou ces différentes paroles de Jésus dans les Évangiles. Passons maintenant au but de tout ceci. Pourquoi Dieu a-t-il répandu son esprit à la Pentecôte ? Pourquoi Dieu a-t-il répandu son esprit à la Pentecôte ? Et je pense qu'une partie importante de la réponse à cette question se trouve certainement dans les paroles du Seigneur Jésus que nous trouvons au début du livre des Actes, juste avant que Jésus ne quitte ses disciples. Alors nous avons déjà lu le verset 5 et le verset 8, mais nous lisons maintenant avec le contexte immédiat les versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, donc il s'agit de Jésus avec les disciples, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit-Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Que nous fait comprendre ce passage ? À la lumière de ce texte, nous comprenons que Dieu a fait le don de son esprit à ses disciples pour qu'ils puissent être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pour qu'ils puissent être ses témoins dans le monde entier. Le but de l'effusion de l'Esprit était on ne va pas la réduire à cela, mais pour une part importante, d'équiper les disciples, d'équiper l'Église pour la mission de l'évangélisation. Et nous voyons que cela a été effectivement le cas. Parce qu'après la Pentecôte, après ce que nous venons de décrire dans ce chapitre 2, les disciples ne sont plus les mêmes. Avant, ils se cachaient. Avant, ils avaient peur de parler. Maintenant, ils témoignent, ils prêchent, ils parlent publiquement. Ils n'ont plus la crainte des hommes et ils annoncent Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu de Dieu de la puissance, celle du Saint-Esprit qui les rend maintenant capables d'être les témoins de Dieu. Mes amis, Pentecôte, c'est le tout premier pas de l'évangélisation du monde. C'est le tout premier pas de l'évangélisation du monde. C'est le commencement de cette grande mission que Jésus a confiée à ses disciples, celle de faire de toutes les nations des disciples, de les enseigner et de les baptiser et de les enseigner au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il convient ici de dire un mot sur le timing de Dieu. Et la question que je me suis posée ici est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce jour de la Pentecôte pour agir ainsi, pour répandre son esprit, pour donner son esprit à ses disciples, à son Église? Fallait-il que ce soit le jour de la Pentecôte? Ou bien est-ce que ça aurait pu se passer à n'importe quel autre moment? Faut-il voir ici une volonté divine dans le choix de ce jour? Ou bien seulement une coïncidence? Je crois fortement, personnellement, qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, mais uniquement sa providence, uniquement sa volonté souveraine. Et je vois deux éléments de réponse concernant la question du timing. Un premier élément de réponse est que Dieu a répondu son esprit à la Pentecôte parce qu'il y avait ce jour-là une foule nombreuse de juifs pieux qui allaient tous ensuite repartir chez eux et repartir chez eux avec cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ils allaient ainsi commencer cette grande mission de propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce jour de la Pentecôte était donc l'événement parfait pour cela, parfait pour donner un vrai coup d'accélérateur, un coup de boost, diront les jeunes, à l'évangélisation du monde. Un deuxième élément de réponse au timing, à la question du timing, se trouve dans le symbolisme de la fête elle-même. Nous l'avons dit, Pentecôte, fête des semaines, fête de la moisson et des prémices, et cette fête de la moisson allait devenir la fête d'une autre moisson, la fête d'une moisson spirituelle, la fête de la moisson du salut. Parce qu'en ce jour de Pentecôte, nous l'avons lu, quelques 3000 convertis sont devenus les prémices de cette grande moisson qui continue encore aujourd'hui et qui continuera jusqu'au retour de Jésus. De la fête agricole des moissons, Pentecôte est devenue fête de la moisson de toutes les vies qui se donnent à Dieu par Jésus-Christ et sous l'action du Saint-Esprit. C'est un timing extraordinaire, comme seul Dieu sait les faire. Et je trouve personnellement regrettable, que Pentecôte soit aujourd'hui presque exclusivement associée à la question du baptême du Saint-Esprit, à la question du parler en langue, plutôt qu'à l'évangélisation du monde, qui est à l'évidence ce qui est en train de se passer ici dans notre texte, au moment où Dieu équipe ses disciples pour qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Alors justement, on n'en parle pas souvent, donc j'aimerais, si vous le permettez, vous dire quelques mots sur cette question du baptême du Saint-Esprit. C'est bien évidemment une question trop vaste pour qu'on en fasse le tour maintenant, mais j'aimerais néanmoins faire quelques remarques sur ce sujet. Et les remarques que je vais faire concernent essentiellement ce qu'on appelle le domaine de l'herméneutique, c'est-à-dire le domaine de l'interprétation des Écritures. Et vous n'êtes pas sans savoir que certains chrétiens affirment, sur la base entre autres de ce texte des Actes, que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem il y a 2000 ans doit être expérimenté par chaque chrétien qui doit lui aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit comme une expérience indépendante de sa nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit est donc, dans cette compréhension-là, une deuxième bénédiction que chaque chrétien devrait rechercher activement. Que faut-il penser de cela? Beaucoup de nos frères et sœurs en Christ dans le monde comprennent les choses ainsi. Et le raisonnement qui est apporté est simple et en apparence irréfutable. Ils disent, les disciples ont eu une double expérience de l'esprit, je m'explique dans un instant, et donc nous devons nous aussi avoir une double expérience de l'esprit. Une double expérience de l'esprit parce que il est clair quand nous lisons les évangiles et le livre des Actes que les disciples possédaient ou avaient déjà l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte. Ils croyaient. Jésus avait soufflé symboliquement sur eux le Saint-Esprit. Et donc, ils vont expérimenter une double expérience de l'Esprit qui est comprise par nos frères et sœurs charismatiques comme devenant normative pour tous les chrétiens. Est-ce vraiment le cas ? Nous constatons en effet que les disciples ont eu une double expérience de l'Esprit. C'est indéniable. Mais il y a une bonne raison pour laquelle leur double expérience de l'Esprit ne peut pas être normative pour nous. Et la raison, c'est que leur vie de disciples se situe à cheval sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ils ont cette position unique dans l'histoire du salut qui n'est plus la position d'aucun chrétien après la Pentecôte. Ils ont d'une certaine manière un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau. Et donc ils ont vécu cette période charnière unique dans l'histoire et dans l'histoire du salut, et c'est la raison pour laquelle leur expérience ne peut pas être normative. Parce qu'après eux, après la Pentecôte, plus d'aucun chrétien ne se retrouve avec un pied des deux côtés. Hein? Tous les chrétiens après sont avec les deux pieds dans la nouvelle alliance, dans l'après-Pentecôte. Et donc, constatant cela, il est bien hasardeux, à mon sens, de faire de leur expérience atypique et unique une norme pour tous les chrétiens. À ceci, nous pouvons ajouter d'autres choses. Et nous pouvons ajouter, entre autres, que le livre des Actes est un livre historique. Qu'est-ce que cela signifie? Ou plutôt, qu'est-ce que cela implique? Cela signifie, entre autres, que ce livre historique n'a pas été écrit pour nous dire ce que nous devons faire, mais il a été écrit pour nous dire ce qui s'est passé. Et c'est fondamentalement différent. Dans l'Écriture, il y a des livres qui ont été écrits pour nous dire comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Ce sont les épîtres, ce sont les lettres que les apôtres adressent aux églises. Et il est donc toujours important pour nous qui étudions la Bible de commencer par bien identifier le genre littéraire du livre que nous lisons. Parce que comprendre le genre, c'est déjà comprendre en partie la portée du livre. Pentecôte est un événement historique unique. Et dans l'histoire du salut, je pense que l'on peut comparer Pentecôte à la crucifixion, à la résurrection, à l'ascension, et puis Pentecôte comme des événements uniques dans l'histoire du salut. C'est la transition historique de la période de préparation, c'est-à-dire l'Ancien Testament, à la période de l'accomplissement avec la venue de Jésus-Christ. C'est l'entrée du peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, dans l'ère de l'Esprit, dans l'ère de l'Église. Et puis, pour reprendre les mots de l'apôtre Pierre, c'est l'inauguration des derniers jours dont l'Écriture parle à plusieurs reprises. C'est le verset 17 que nous avons déjà lu. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous, sur tous. Vos fils, vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Avec l'effusion de l'esprit à la Pentecôte, se termine tout ce qui a trait à l'ancienne alliance et commence une ère nouvelle, l'ère de l'Église, l'ère de l'Esprit. Alors oui, les disciples étaient déjà régénérés à la Pentecôte. Ils avaient déjà l'Esprit, mais ils étaient dans une position unique que plus personne n'occupera après eux. À l'inverse de nous, leur régénération n'a pas coïncidé avec leur entrée historique dans l'ère de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, à mon sens, être pris comme modèle. Ajoutons encore à tout ce que nous venons de dire que l'ensemble des textes du Nouveau Testament nous enseigne qu'être chrétien, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Nous pourrions citer beaucoup de textes qui vont dans ce sens. J'en citerai pour commencer celui-ci de Paul aux Corinthiens qui dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ça veut dire que ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit est une expérience commune à tous les chrétiens, commune à tous les chrétiens lors de leur régénération, c'est-à-dire quand l'Esprit-Saint vient faire sa demeure en nous, c'est-à-dire à la nouvelle naissance. Et puis, si nous devions rechercher le baptême du Saint-Esprit, comme certains l'affirment, comme une expérience indépendante de la conversion, alors il y a fort à parier, ou en tout cas, il serait fort probable que le Nouveau Testament ait quelque chose à dire sur le sujet, si c'était vraiment le cas. Si nous devions rechercher cette deuxième bénédiction, mais vous pouvez le faire comme je l'ai déjà fait, vous pouvez chercher de Matthieu à l'Apocalypse et nulle part, nous ne sommes exhortés à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Nulle part, nous ne sommes exhortés à prier pour être baptisés du Saint-Esprit. Nulle part. Face au problème des églises, nombreux, à ces églises, à ces chrétiens qui sortaient du paganisme. Il suffit de lire l'Épître aux Corinthiens pour voir que c'était difficile la vie d'église à l'époque. Nulle part face au problème des églises leur est-il dit que ce qui leur manque pour résoudre leurs problèmes, c'est le baptême du Saint-Esprit, ou c'est plus d'esprit. Et il me semble qu'un des problèmes dans ce débat et parfois tout simplement un certain manque de cohérence. Si l'expérience des disciples était normative, comme certains le pensent, dans notre texte des Actes, Alors, ne faudrait-il pas, à chaque fois que quelqu'un est baptisé dans l'Esprit, qu'il y ait aussi un bruit comme un violent coup de vent, si c'est normatif? Qu'il y ait aussi des langues comme des langues de feu? Qu'il y ait aussi des langues étrangères qui soient parlées? Qu'il y ait aussi beaucoup, beaucoup de conversions? Soit c'est normatif, soit ça ne l'est pas. Et or, à ma connaissance, dans l'histoire de l'Église, et je ne parle même pas du XXe siècle, qui est le siècle où on a le plus parlé du Saint-Esprit, mais dans toute l'histoire de l'Église, ça ne s'est jamais reproduit de la sorte. Parce que Pentecôte est un événement unique dans l'histoire du salut qui n'a pas vocation à se renouveler. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur un sujet aussi vaste, mais j'aimerais maintenant terminer. J'aimerais terminer en simplement en attirant notre attention sur ce jour extraordinaire de Pentecôte où nous pouvons et où nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné, son Esprit. Il nous l'a donné afin de créer en nous une vie nouvelle, la vie de l'Esprit, pour que nous marchions par l'Esprit, pour que nous ne marchions plus par la chair, mais pour que nous marchions par l'Esprit. Il nous l'a donné pour que nous soyons son temple, le temple du Saint-Esprit. Il nous l'a donné pour nous adopter dans sa famille. Et nous sommes par l'Esprit, fils et filles de Dieu, héritiers de Dieu le Père. Et Paul dit dans sa lettre aux Romains que nous avons reçu un esprit d'adoption filiale. Et c'est par cet esprit d'adoption filiale que nous pouvons crier « Abba, Père ». Et c'est par cet esprit d'adoption finale que l'Esprit lui-même rend témoignage en nous, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Vous retrouverez tout ça dans Romains chapitre 8. Il nous l'a donné enfin pour que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Être ses témoins, c'est là la mission que Jésus a laissée à ses disciples avant de repartir auprès de son Père. Et si je comprends bien, ce deuxième chapitre du livre des Actes, c'est entre autres pour cela qu'il leur a donné son esprit, qu'il nous a donné à nous aussi son esprit, pour que nous puissions être ses témoins. Son esprit comme la puissance nécessaire et indispensable pour accomplir efficacement l'œuvre qu'il nous a confiée. Et nous pouvons nous souvenir ici de quelques paroles de l'apôtre Paul qui, dit-il, avait un message percutant. Et s'il avait un message percutant, regardez ce qu'il dit aux Corinthiens. Sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et de même, il dira aux Thessaloniciens que son évangile n'était pas prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Et là, je crois, la clé d'un témoignage puissant et efficace, ce ne sont pas nos belles paroles qui touchent les cœurs, ce n'est pas notre éloquence si nous en avons, ce n'est pas notre savoir, mais c'est l'action puissante de l'Esprit de Dieu en nous et au travers de nous qui touche les cœurs et qui les amène à Jésus-Christ. Puissions-nous être de tels témoins, des témoins qui comptent sur l'Esprit de Dieu et qui dépendent de l'Esprit de Dieu en eux. Et si nous sommes de ces témoins-là, alors nous aurons certainement la joie de voir Dieu à l'œuvre en nous et puis au travers de nous, pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.